les élections de mi-mandat. Et ça va être un test important pour Donald Trump parce que ça va effectivement affecter les deux prochaines années de sa présidence. On va en discuter avec notre collègue du 98.5, Valérie Beaudoin. Elle est aussi chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand. On la joue en direct de Miami. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Ça fait des semaines qu'on en entend parler, mais je veux quand même qu'on prenne le temps de rappeler quel est l'enjeu demain. On sait tous que le mandat présidentiel, ça dure 4 ans, sauf que là, ça va être des représentants et des sénateurs qu'on va élire. Et eux, leur mandat n'est pas de la même durée que pour la présidence.
Non, c'est assez complexe, les élections de mi-mandat. C'est même complexe pour les électeurs américains. Alors, ce qu'on va élire, les gens qu'on va élire demain, le 6 novembre, c'est un tiers du Sénat. Eux, c'est des mandats de 6 ans, les sénateurs américains. Donc, un tiers à chaque 2 ans est élu ou réélu. Tous les sièges de la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, de 2 ans. Et il y a 36 États américains qui vont faire élire leur gouverneur. Bon, un peu l'équivalent de notre premier ministre au Québec. Alors, il y a énormément de gens qui sont donc en élection demain. Et ça, c'est en plus, bon, vous le savez, aux États-Unis, là, les shérifs, il y a des juges qu'on va élire, des conseillers municipaux. Il y a même des amendements à la Constitution, donc des espèces de référendums sur les bulletins de vote. On peut imaginer comment c'est un casse-tête pour les électeurs ici. Dans certains États, là, ça peut avoir plusieurs pages, là, les bulletins de vote.
C'est ça, les bulletins de vote sont assez impressionnants. Puis le fait de se renseigner sur chacun des enjeux, ça demande énormément de temps. Donc, ça peut expliquer un peu le taux de participation qui est un peu plus bas à l'habitude. On y reviendra. Là, actuellement, la majorité des deux chambres est républicaine, sauf que ça pourrait changer demain soir. Commençons par la Chambre des représentants, Valérie. À la dissolution, il y avait 236 républicains, 193 démocrates et 6 sièges vacants. Si on regarde les sondages actuels, est-ce que les démocrates pourraient renverser cette majorité républicaine?
À la Chambre des représentants, c'est l'endroit où je vous dirais que ça augure bien pour les démocrates. Bon, si on suit au sondage, et on l'a vu par le passé, entre autres en 2016, quand Trump a battu Clinton, il faut s'y fier, mais avoir un certain bémol aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui est sondé, bien sûr. Et il y a des gens qui se décident à la dernière minute, mais la Chambre des représentants pourrait basculer chez les démocrates. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est vraiment pour les gens qui veulent un changement aux États-Unis. C'est ce qu'on veut, parce que la législature, là, toutes les lois qu'on passe, ça passe souvent par la Chambre des représentants. Alors, ils ont quand même un pouvoir qui est assez intéressant, mais je dirais que le vrai pouvoir, on dit souvent que c'est le Sénat aux États-Unis. Et là, c'est un petit peu moins bon pour les démocrates. Là, ce qu'on dit, c'est que les républicains pourraient l'emporter, donc conserver leur majorité. Parce que je vous parlais tout à l'heure là, que c'est un tiers seulement du Sénat qui est en réélection demain. Et c'est pas le... Je vais mettre des guillemets un peu, mais c'est pas le bon tiers pour les démocrates. C'est vraiment dans des États où Trump a une majorité là, de 10 points en avant d'Hillary Clinton aux dernières élections, des États qui sont à majorité républicaine. Donc, en plus de protéger les sièges qu'ils ont déjà, ils devraient en gagner dans des États où c'est extrêmement difficile de faire passer un candidat démocrate. Je voudrais que les astres, c'est un petit peu moins positif pour les démocrates pour demain.
Et là, le système politique américain, c'est composé de poids et de contrepoids. On dit « checks and balances » en anglais. S'il y a une ou deux chambres qui devaient basculer dans le camp démocrate demain, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Donald Trump? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire passer sa vision et ses projets de loi?
Et ça va compliquer beaucoup les choses, parce que les démocrates et Trump, en ce moment, c'est vraiment pas l'amour. Alors, imaginez si eux contrôlent les deux chambres, par exemple, et que Donald Trump veut faire passer des politiques sur l'immigration, son mur, sur les coupes de taxes. Il y a plein de choses qui vont être en désaccord, surtout par rapport à Obamacare. On sait qu'il a voulu l'abroger depuis le début, mais c'est encore là. C'est quelque chose qu'il veut. Il veut se débarrasser de l'héritage un peu de Barack Obama par rapport à la santé. Il veut le changer. Ça va être un travail qui va être difficile entre les deux. D'ailleurs, Barack Obama, l'ancien président, lui, était contre une chambre républicaine, un congrès républicain.
Oui.
Et c'était pas facile de faire avancer des projets de loi. Alors, c'est pas unique à Trump, là. C'est vraiment, justement, le check and balance. Ben, ça fait que parfois, ça peut être plus difficile. Et est-ce que Trump mettrait un peu d'eau dans son vin, lui aussi, de son côté, pour travailler main dans la main avec les démocrates, pour pas paralyser le pays? Ben, ça serait ça qui va être, parce que la situation pourrait quand même changer si c'est eux qui prennent le pouvoir de son vin.
Puis au-delà des enjeux que tu as mentionnés, Valérie, l'immigration, les coupes de taxes, l'Obamacare, est-ce que demain, si on devait résumer, l'élection de mi-mandat, c'est un référendum sur Donald Trump?
Bien, c'est ce que je sens sur le terrain ici aussi, et c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. Les gens à qui je parle d'élection, c'est comme si les candidats de demain, est-ce qu'on va envoyer...
Valérie... Excuse-moi, Valérie, je vais devoir t'arrêter.
On l'aime et on veut appuyer le Parti républicain.
On a quelques problèmes de son, Valérie. On va te rappeler sur une ligne téléphonique standard plutôt que sur nos lignes magiques radiophoniques.
C'est pour garder nos auditeurs attentifs. Oui. Tu sais, t'écoutes, puis à un moment donné, oups, ça coupe, tu te dis, ça va accélérer. Après, faut que je sois attentif.
J'ai l'impression.
Faut remplir les blancs.
C'est comme écouter du morse, hein. Tu sais, on est en court long.
C'est pas la chanson en blanc dans la fureur ou quelque chose comme
ça? La chanson en blanc, oui, c'est ça.
Il fallait remplir un bout.
Exact, il arrêtait, puis là, il fallait rembarquer.
La chanson arrêtée. Oui, ça joue. Chez nous. Ça jouait chez nous dans le temps des fêtes, ça, Mini Fureur, la chanson arrêtée. J'ai appris la vallée de Dana par cœur en jouant à Mini Fureur.
C'est ça, Valérie est à Miami présentement, puis on lui parlait en direct d'un système.
Elle est rendue à Miami parce que je sais qu'elle atterrissait à Parkland.
Oui.
Là où il y a eu une fusillade.
À la Saint-Valentin.
Dans une école secondaire qui a fait 17 morts. Ça, c'est une autre affaire. Ça devait être quand même assez intéressant de parler avec les gens là-bas. Je sais qu'elle s'est prêtée à l'exercice, là.
Oui.
Ça devait être quelque chose, en mot t'as dit, de parler avec les gens qui ont vécu ça. Puis là, quelques mois plus tard, comment c'est quoi l'ambiance dans cette ville-là, dans cette petite communauté-là?
On va aller lui poser la question, justement. Valérie est de retour avec nous. Bonjour, Valérie. On parlait de ta couverture sur le terrain puis des gens que t'avais rencontrés. T'avais le sentiment que c'était un peu un référendum sur Trump auquel on allait avoir affaire demain. D'ailleurs, t'es à Miami présentement, mais t'es allé à Parkland aussi dans les derniers jours. Hier, tu étais là-bas. Et puis, comme on le disait, Paul-Raphaël et moi, les gens de là-bas sont affectés par la fusillade qui a fait manchette le 14 février dernier. Bon, il y avait eu 17 morts dans une école. Sens-tu que cet enjeu-là, cet événement-là a motivé un peu des changements d'attitude puis de comportement auprès des gens, notamment en lien avec le contrôle des armes à feu?
Ben c'est ce que je pensais. C'est pour ça que je me suis rendue sur place en me disant ben ça va être un enjeu majeur. Les gens vont beaucoup en parler. Et oui, à Parkland, c'est encore important parce que les cicatrices sont vives et les gens, on le voit, qui sont pas encore remis de la tragédie. Mais c'est un enjeu qui est un peu éclipsé par la campagne électorale en ce moment, par d'autres questions comme l'immigration ou la santé. Mm-hmm. On l'oublie. Puis je pense aussi que c'est un peu, là, je vais utiliser l'expression, une patate chaude pour les différents élus parce qu'ils se disent, bon, on veut pas se mettre à dos des gens qui sont près de la NRA ou le contraire. Alors, on essaie d'éclipser ça. Et à Parkland, le sentiment que j'ai parlé autant à des parents, aussi à une élève qui était dans l'école à Marjorie Stoneman Douglas quand ça s'est passé la fusillade. C'est qu'on se sent pas en sécurité, malgré toutes les mesures qui ont été mises de l'avant. Il y a même des policiers qui sont encore près de l'école. C'est vraiment fortifié, je vous dirais, à l'extérieur aussi. Mais on se dit c'est trop frais à la mémoire. Ouais. Il y a trop une grande circulation des armes à feu. Et ce qu'on demande, c'est pas d'interdire les armes aux États-Unis, mais ce qu'on demande, c'est pourquoi des armes semi-automatiques comme des AR-15, qui sont des armes pratiquement de guerre, ça peuvent être entre les mains d'Américains. À quoi ça sert? C'est vraiment là qu'est le nerf de la guerre pour eux. C'est pas les armes en général, c'est vraiment ces armes, ces machines de guerre-là qui ont été utilisées pour tellement de tuer aux États-Unis.
Puis justement, j'imagine que les candidats sur place veulent pas non plus instrumentaliser puis politiser une tragédie qui est quand même fraîche à la mémoire des citoyens qui sont là de vouloir l'utiliser dans notre politique ou dans notre campagne, ça pourrait être risqué un peu, ça pourrait manquer un peu de tact envers les familles des victimes, là.
Oui, puis ils en ont parlé beaucoup quand c'est arrivé les faits, quand la tragédie c'est encore frais à la mémoire des gens, mais peut-être que vous le remarquez, il y a eu encore la fusillade à la synagogue qui est arrivée il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Il y en a malheureusement à toutes les semaines. Mm-hmm. On en parle pendant peut-être un cycle de nouvelles de 24 heures, puis après on passe à autre chose. Alors, dans la réalité, dans le concret, c'est la même chose ici aussi. Donc les gens semblent se dire ben écoutez, il y a d'autres enjeux. Nous, on va penser nos blessures, mais la communauté, on essaie de passer aussi à autre chose parce que eux, sans faire parler sans cesse, ben ça va raviver des souvenirs et c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. Alors, je voudrais que c'est assez mitigé par rapport à ça. Mm-hmm.
Donald Trump a été très présent dans la campagne de certains candidats, bon, au Sénat, au Congrès, mais aussi au gouverneur de différents États. Du côté démocrate, on cherche un peu nos leaders depuis la défaite d'Hillary Clinton. D'ailleurs, Barack Obama est revenu sur la campagne électorale et il a participé à des rassemblements au cours des derniers jours.
Oui, ben c'est ça. On l'a vu sortir un peu de l'ombre il y a quelques semaines déjà. Il continue de le faire, d'être massivement présent parce que lui, il est aimé. On sait que sa cote de popularité est quand même assez élevée. Il est aimé des jeunes qu'on veut qui votent. On veut les faire sortir pour aller dans les bureaux de vote demain s'ils n'ont pas déjà voté. Alors, c'est comme une figure un peu emblématique. Pour les gens qui s'ennuient de Barack Obama, ben, ça peut les motiver. Mais je voudrais que c'est un couteau à double tranchant parce qu'il est détesté de beaucoup, beaucoup de républicains. Mm-hmm. Alors, il y en a à le voir sortir comme ça, faire un peu la leçon aux républicains. Ben, ils n'aiment pas ça. Et ça peut aussi les inciter, eux, d'un autre côté, à sortir et à aller voter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent à la maison aux élections de mi-mandat. Alors, il polarise aussi à ce niveau-là. Mais il n'y a pas encore de star pour 2020, quelqu'un qui pourrait battre Donald Trump. Je voudrais que c'est pas encore quelque chose qui est mis de l'avant. Est-ce que les démocrates ont une arme secrète, ont quelqu'un qui va pouvoir le battre en 2020? Ben, ils ont encore 2 ans, mais 2 ans, ça va très vite.
On dit que demain, le taux de participation va être un des éléments clés avec le vote des femmes également. Le vote anticipé a dépassé celui de 2014 dans plusieurs États, 18 selon le New York Times. Quel camp va être avantagé si le taux de participation est plus élevé qu'à l'habitude?
Ben ça dépend parce qu'il y a des endroits comme au Texas où il y a beaucoup de jeunes qui se sont inscrits cette année, qui ont voté, mais bon, c'est un État qui est quand même à majorité républicaine, entre autres. Mais ce qu'on dit, c'est que si les jeunes de plusieurs zones comme New York, comme la Californie, vont voter massivement parce qu'ils étaient seulement autour de 18% pour les universitaires à aller voter à l'élection de mi-mandat en 2014, ben ça peut faire pencher dans la balance des démocrates. Les deux partis ont des bases assez fortes. Alors, c'est difficile vraiment de le prédire. Est-ce que ça va avantager les démocrates? Il y en a certains qui le disent. Mais vraiment, ça va être demain soir qu'on va pouvoir voir si les sondages avaient raison cette fois-ci.
Merci beaucoup, Valérie, pour le compte-rendu. Très apprécié.
Merci.
Bonne journée, à bientôt. Collaboratrice au 98.5 et chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand. On discutait avec notre collègue Valérie Beaudoin en direct de Miami, en Floride.